Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 22e épisode de Popol. Et pour ce 22e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Marion Tremenschlager. Bonjour Marion.
Bonjour Léa, merci pour ton invitation.
Avec plaisir, comment vas-tu?
Très bien, j'ai cru comprendre un petit peu ce qui nous amenait là en termes de débat, donc je pense que ça risque d'être assez passionnant et passionné.
Cool, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît?
Alors, pour une rapide présentation, moi, en fait, je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Donc, je travaille sur tout ce qui est usage numérique. Alors, ça peut faire peur, sauf qu'en fait, c'est très humaniste hein, comme approche. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur l'intermédiation numérique. Donc, ça va toucher des sujets comme notre relation à la ville, au territoire aujourd'hui, notre relation à l'autre. Ça peut très bien être, par exemple, les nouvelles formes de rencontres en ligne. Donc, c'est en cela que ça touche pas mal de choses et de sujets de société, donc plus qu'actuels, notamment avec la crise sanitaire, évidemment. Et puis, à côté, donc, j'enseigne à l'université donc à Rennes, en tout cas pour l'instant. Et puis, je suis également consultante auprès d'entreprises, notamment dans le public, donc collectivités, gouvernements, etc., sur ces questions d'usage numérique, où en fait la conception, c'est vraiment de se dire, voilà, le numérique, ce n'est pas une fin en soi, ça peut être autant un poison qu'un remède, donc c'est comment on met ça au service de l'individu. Donc voilà, en quelques mots.
Super, très intéressant. Tu dois être très attentive à ce qui se passe sur Twitch avec les récentes tentatives de nos chers politiques ratées
oui,
ou pas.
Non, mais c'est passionnant. Franchement, ce qui se passe, c'est autant déconcertant que passionnant. Donc, en tout cas pour moi, et je ne suis pas la seule à travailler là-dessus, c'est vrai que c'est un vrai terreau.
Ouais, tu m'étonnes. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Salomé Guilbert. Bonjour Salomé.
Bonjour Léa, merci pour cette invitation.
Merci à toi d'être là parmi nous. Comment vas-tu?
Ça va.
Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Moi, je suis étudiante en première année de master en politique publique, après avoir fait une licence de sciences humaines et sociales, sur une école à Paris, à Sciences Po, mais surtout étudiante confinée, donc en enseignement à distance depuis plus d'un an, mais ça va. Et puis sinon, en parallèle, je travaille au sein de l'association Projet Déclic, donc on raccourcit souvent par Déclic. Et donc, c'est un laboratoire d'idées de politique publique pour la transition socio-environnementale. Et on travaille notamment sur le projet de loi climat et résilience. Et puis, on a plusieurs groupes thématiques, dont un groupe justement sur le numérique responsable. Donc, ça me fait écho ce que disait Marion. Voilà.
Super, merci beaucoup Salomé. Et enfin, notre dernière invitée, Soraya Metou. Bonjour Soraya.
Bonjour Léa, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Avec plaisir, merci à toi. Comment vas-tu?
Eh bien, écoute, très bien, très heureuse de me retrouver avec tant de femmes brillantes en cette belle après-midi.
Ce que tu n'avais pas prévu d'ailleurs, parce que tu pensais que c'était demain. Bonne surprise. Tant mieux, c'est cool. Tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît?
Alors, moi, j'ai 30 ans. Je suis candidate à l'élection régionale d'Île-de-France sur la liste de Julien Bayou, l'écologie évidemment. Donc, je fais partie du binôme tête de liste en Seine-Saint-Denis avec Kader Chiban, qui est tête de liste. Je suis aussi à la direction nationale de Génération, le mouvement fondé par Benoît Hamon. Je suis en charge du projet de société. C'est très intéressant. Et enfin, je suis une militante salariée de l'économie sociale et solidaire. Salariée parce que c'est mon travail, mais militante parce que je suis aussi cofondatrice du tiers-lieu Espace dans le 13e arrondissement de Paris. Vous en avez peut-être entendu parler dernièrement avec les distributions alimentaires de l'association Linky notamment. Et je suis aussi au conseil d'administration d'une association qui s'appelle, bientôt secrétaire générale d'une association qui s'appelle Émancipe Action, qui sont aujourd'hui les rencontres de la plaine qui s'occupent de mettre en valeur les initiatives et de créer du débat autour de l'économie sociale et solidaire et toutes ses implications sur le territoire de pleine commune, mais bientôt au-delà, vers l'infini et au-delà.
Bravo, super. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 22e épisode de Popol. On va parler aujourd'hui de la PPL fin de vie qui a fait beaucoup de bruit cette semaine à l'Assemblée nationale et du retour inattendu de notre cher Doudou adoré. Ça va être assez intéressant de voir comment il se positionne et est-ce qu'il revient pour effectivement annoncer ou non sa candidature à la présidentielle. Quel suspense. Commençons d'abord par la PPL fin de vie. Jeudi dernier, les députés ont examiné, en partie, la PPL d'Olivier Falorni proposant la mise en place de l'euthanasie active en France. Je dis « en partie », puisque le texte n'a pas pu être examiné dans son intégralité en raison des quelques 4000 amendements qui ont été déposés principalement par des députés LR. Pourtant, 96% des Français sont favorables à une évolution sur ce texte et de nombreux parlementaires souhaitent que cette question soit à nouveau débattue dans l'hémicycle. Aujourd'hui, et depuis l'adoption de la loi Clay-Leonetti en 2016, l'euthanasie passive est autorisée en France. Elle consiste à mettre le patient dans un état de sédation profonde et continue lorsque son pronostic vital est engagé à court terme. Que pensez-vous de cette obstruction qui a récemment eu lieu ? Est-ce que vous pensez que cette question devrait effectivement faire l'objet d'un nouvel examen au Parlement avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est le bon timing ? On va commencer avec toi, Marion. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Bah, en fait, la façon de l'aborder, là, ta façon de l'aborder m'a poussée vraiment à réfléchir parce que moi, j'ai une réponse toute simple qui arrive. Je ne suis pas partisane de l'euthanasie en soi, c'est vraiment, je suis plutôt partisane de la liberté. Et à partir de là, on découle évidemment des réponses pour moi qui sont claires et sur lesquelles je ne comprends pas qu'on puisse mettre autant de temps à accepter ces libertés qui sont finalement un droit hein, de l'individu. Donc je pense que en effet on est dans de plus en plus dans une sorte de confrontation qui se joue entre le gouvernement et du coup l'Assemblée. Donc on voit que finalement ce qui est en jeu comme toujours c'est plus la politique et les candidatures etc. qui vont s'annoncer que le sujet de fond. Et je dirais qu'en fait, moi, ce qui me dérange, il y a deux choses. C'est que, en fait, la stratégie qui n'est pas nouvelle, hein, politique, c'est de mettre en opposition des thématiques pour dire, bah non, en fait, c'est pas le bon timing parce que autre chose. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on met en opposition les besoins en termes de soins palliatifs qui seraient prioritaires, ce que je comprends tout à fait, hein, face à ce projet de loi qui, lui aussi, selon moi, est prioritaire depuis longtemps. Et en fait, c'est une réponse complètement biaisée parce que c'est pas un choix. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires. C'est que d'un côté, on dit, voilà, moi, je veux attendre la fin naturelle et être respectée donc dans les soins palliatifs. Et d'un autre côté, on dit, bah, en fait, je veux juste pas être dans un état d'agonie et c'est mon droit. Et donc, pour moi, les deux sont complémentaires et on ne peut pas les mettre face à face. Donc déjà, c'est le premier problème sur la façon de l'aborder par le gouvernement. Et j'ai une deuxième chose moi, qui me titille un peu, c'est le côté, y a beaucoup de bruit autour de la réaction un peu molle, qu'on qualifie molle en tout cas d'Emmanuel Macron. Moi je trouve ça bien dans le sens où en fait on est dans un débat sociétal qui appartient à la société. Et qu'en fait, plus que jamais avec ce qui nous arrive là depuis un an, et on voit comment ça se passe, on a besoin de restituer les libertés au peuple et aux individus, et donc de faire attention au tout pouvoir du gouvernement. Donc voilà, on est dans autre chose qui me semble être très important, révélé par la démarche. Mais on va avoir l'occasion d'en échanger avec tout le monde.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Moi, ce qui me... Juste sur l'aspect politique, hein, je ne rentre pas sur le fond du débat, pour ou contre. Ce n'est pas trop la question que je voulais aborder là avec vous maintenant. Mais sur l'aspect politique de la chose, moi, ce qui me fascine assez, c'est que finalement, c'est une des seules questions sur laquelle le Parlement arrive à faire infléchir doucement le gouvernement. C'est quand même remarquable. La majeure partie des députés qui sont pour l'examen de ce texte sont des députés de La République En Marche. Je veux dire, celui qui est vraiment la figure de proue de l'euthanasie active en France, c'est Jean-Louis Touraine, qui est un député de La République En Marche, ancien socialiste, et qui est à la tête en fait, du groupe d'études Fin de Vie. Et lui a déposé une PPL récemment aussi, en janvier, qui reprend en fait l'intégralité des travaux de ce groupe d'études et qui propose quelque chose d'assez similaire à ce qu'a proposé Olivier Falorni. Et on sait que le gouvernement n'est pas tout à fait prêt à le suivre là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le gouvernement a infléchi sa position face à la comment dire, l'influence du Parlement et la pression qui a été faite, notamment avec la tribune qui a été signée qui a été publiée dans le JDD et qui a été signée par plus de 270 députés de mémoire, qui demandaient la possibilité, députés de tous bords, hein, qui demandaient la possibilité de s'exprimer sur ce texte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous le savez, mais en mars, au Sénat, une sénatrice socialiste avait proposé un texte très similaire et le gouvernement à ce moment-là avait émis un avis défavorable sur le texte. Là, ce qui s'est passé sur la PPL Falorni jeudi, c'est que le gouvernement a émis un avis de sagesse. Donc il commence doucement. Voilà, on pourrait se demander si finalement le Parlement, grâce à cette question, n'arrive pas à reprendre son véritable rôle qui est, et je suis d'accord avec toi Marion, face à un exécutif tout puissant, fondamental, notamment dans ce qui concerne les sujets de société. Salomé, tu vois les choses comment toi ?
Non, moi je vous rejoins parfaitement. Ce glissement progressif justement de l'avis du Parlement sur le sujet est assez intéressant, notamment parce que notre jeu institutionnel fait que dans ce parlementarisme rationalisé, l'exécutif a prééminence sur le Parlement, et là voir que sur un sujet de société, progressivement le Parlement réussit justement à porter de nouvelles questions et à infléchir une certaine direction, c'est même très positif, et au contraire je pense que ça joue en sa faveur et ça permet aussi de lui redonner un peu tout son sens, de faire vivre un débat démocratique qui pour moi est nécessaire dans notre société. Après, encore une fois, au niveau de la forme, on peut quand même s'interroger sur le nombre d'amendements qui a été déposé un peu pour faire obstruction aussi, et ça c'est dommage parce que je pense que au contraire, toutes les opinions devraient être les bienvenues et on devrait pouvoir échanger de façon mature, on pourrait dire, pour faire vivre un débat qui est nécessaire, parce que tout le monde, pour ou contre, doit pouvoir s'exprimer à ce sujet-là, et obstruer, c'est peut-être pas la meilleure façon pour arriver à une évolution positive, je pense.
Ouais, c'est effectivement assez moche. Est-ce que tu penses que c'est une volonté affirmée de la part du gouvernement de commencer à lâcher un peu du lest par rapport notamment à toutes les critiques qui lui sont faites sur la verticalité du pouvoir et aussi le fait que le Parlement se considère de plus en plus comme une espèce de chambre d'enregistrement des politiques qui sont menées par le gouvernement. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté quand même de lâcher un peu du lest comme ça ?
Je ne sais pas si c'est spécifiquement une volonté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi un moment donné où il n'y a pas forcément le choix, vu le contexte actuel aussi, où il y a un peu une crispation. On a pu le voir notamment lors de la loi climat qui est passée récemment. Du coup, je pense qu'il y a aussi un moment donné où on n'a pas forcément trop le choix et on est obligé de laisser le rôle aussi du Parlement, qui est d'amener de nouveaux sujets et de mettre justement à l'ordre du jour, dans le peu de cases dont il dispose de certains sujets. C'est un peu une évolution aussi qui est logique. À un moment donné, je pense qu'on aurait eu à traiter de ce sujet, notamment quand on voit que nos voisins européens, par exemple l'Espagne récemment, mais aussi la Suisse ou la Belgique, ont une loi similaire. Et donc, à un moment donné, il fallait traiter ce sujet de toute façon.
Ouais, c'est clair. En termes de contexte, justement, Soraya, beaucoup disent que c'était pas tout à fait le moment, en pleine crise sanitaire, que c'était vraiment pas le bon moment pour se saisir de cette question. T'en penses quoi, toi ?
Moi, je pense que là, on est sur la question fondamentale des libertés. La liberté de vivre, la liberté de mourir, la liberté de choisir le moment où on se sent le plus digne de partir. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour avoir des débats sur la liberté. Et justement, comme on est dans une phase où on nous fait penser que pour avoir plus de sécurité, se sentir plus en sécurité, on est obligé de renier petit à petit sur nos libertés, je pense que c'est bien qu'on puisse se souvenir que les thématiques sociétales de liberté, de choix qui a trait à la vie humaine, à l'humain, à la dignité des humains, on peut les aborder et on doit et on se doit de les aborder n'importe quand. C'est essentiel, notamment, alors Salomé le disait très très bien, il y a une pression des pays alentour, mais sur le débat parlementaire, moi ça faisait écho, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Emmanuel Macron a été élu et que le Parlement est passé majoritairement La République En Marche, il y a eu un petit sondage chez les députés La République En Marche sur l'euthanasie. Et c'était 50% pour, 50% contre. Et ça dénotait bien aussi quelque chose, c'est que c'est un mouvement politique qui s'est monté très rapidement pendant les présidentielles, qui a bien travaillé ses socles idéaux économiques, peut-être sociaux, même si j'en ai pas la même vision qu'eux et qu'elles. Mais du coup, on est sur tous ces aspects sociétaux-là, on n'a pas de, de base idéologique commune. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça crée du remous à l'Assemblée. Et on arrive en période présidentielle, et donc les rangs ont besoin de se resserrer. Et si on a un gouvernement qui n'écoute pas les députés de son parti, mais je pense qu'on y viendra en second temps, ça laisse la porte ouverte à peut-être des surprises en 2022, ou en tout cas des remous en 2022. Moi, je pense sincèrement que, pour le coup, c'est une bonne chose. Ce pays a besoin de débats, on a besoin de faire vivre la démocratie, on a besoin de déconfiner la démocratie, et que, pour le coup, les 4000 amendements d'obstruction, en plus, c'est des choses qu'on voit sur tous les sujets, mais là, je pense que comme c'est quelque chose vraiment qui touche à l'humain, qui touche au personnel, ça a tendance à encore plus révolter les gens, révolter le peuple, parce qu'on voit ça comme, une occultation de leur de leur centre d'intérêt, en fait. C'est quelque chose qui touche leur quotidien. C'est arrivé à tout le monde d'avoir un proche souffrant qui, à un moment, où ça risque tous de nous arriver et toutes de nous arriver à un moment. Et donc, c'est quelque chose qui traite vraiment à la vie personnelle des gens. Puis la deuxième chose, c'est au-delà de la pression des pays alentours, il y a aussi la pression des euthanasies clandestines. On dénombre aujourd'hui entre 2000 à 4000 euthanasies clandestines. Et donc, en vrai, c'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème sanitaire. On a aujourd'hui des gens qui achètent des produits dangereux sur Internet, qui se mettent en danger parce qu'ils peuvent accéder à ces produits pour mettre fin à leur jour, sauf que c'est des produits qui sont plus... c'est notamment, alors je ne sais plus exactement comment s'appelle ce produit, mais celui qui est utilisé pour les injections létales pour les peines de mort aux États-Unis, qui est interdit en France, je crois, depuis 1996, sauf pour les vétérinaires. Voilà, pour vous donner le... Voilà, et on se retrouve avec des citoyens français qui souffrent tellement, qui commandent ces produits-là pour mettre fin à leur jour. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez dingue et assez reflet de notre société en ce moment, c'est que derrière un débat fondamental de liberté, on va toujours mettre des craintes et des enjeux civilisationnels. C'est quand même dingue qu'on arrive, on part sur un débat sur la liberté de vivre ou de mourir sans souffrir, et on arrive sur c'est l'effondrement de la civilisation judéo-chrétienne, ouais, la sortie de Houellebecq est juste hallucinante là-dessus. Et donc, on glisse sur ce terrain-là. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu ça avec tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut que les gens, les citoyens, les citoyennes, se réapproprient le débat public pour qu'on sorte de ce cercle vicieux-là.
Ça, c'est une très bonne conclusion sur cet élément-là. Marion, tu penses, quels seraient les outils, si admettons, ce texte ne revient pas au Parlement, ce qui est quand même l'un des scénarios principaux, pardon. Quels seraient, d'après toi, les outils qui pourraient permettre de remettre ce débat sur la scène politique ?
Bah, la première chose, et ce qui s'est toujours fait après sous des formes différentes dans ces cas-là, c'est évidemment les rassemblements, de créer en fait des rassemblements, qu'ils soient de nature différente, hein, qu'ils soient dans la rue, mais qu'ils soient également structurés à travers des événements, à travers aussi des regroupements sur des outils en ligne. On a beaucoup de choses qui s'offrent à nous, mais aussi ça va être de faire se rencontrer différents univers, de faire appel autant au grand public que à tout le domaine de la santé, à des penseurs, de faire appel vraiment à toute cette diversité de personnalités pour justement générer un vrai contenu et être vraiment sous la même couleur et engagé dans un vrai débat. Et je rejoins Soraya là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, on a besoin de ça, que ce soit celui-ci ou un autre, on est vraiment sur la question de la liberté d'abord, et je pense que c'est une des questions qui mobilise le plus, donc ça devrait être quelque chose qui pourra être totalement faisable.
Ouais, c'est sûr. Salomé, toi, ton opinion sur une potentielle réappropriation de la part du peuple sur cette question ?
Moi, je pense que ça répond aussi à une volonté, de toute façon, de réappropriation d'une certaine parole politique, notamment au niveau, par exemple, si on prend l'exemple de la jeunesse, je pense que beaucoup de personnes ont de choses à dire, mais de façon générale. Et il y a plusieurs modes de mobilisation citoyenne, effectivement. Donc, ça peut passer par des mouvements, effectivement, collectivement, à l'extérieur, donc actuellement dans le respect des consignes sanitaires. Mais effectivement, sur Internet, il y a une énorme possibilité de mobilisation, que ce soit effectivement actuellement, par exemple, sur, Donc, il y a eu tous les débats sur Twitch, etc. Donc, je pense que la parole citoyenne, elle est là et qu'elle peut réimposer ce sujet politiquement parlant. Et voilà, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de formes de... Enfin, on peut imaginer aussi des consultations citoyennes organisées à ce sujet-là qui pourraient aussi coupler, être en parallèle à ce qui se passe actuellement au Parlement. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est même nécessaire, je pense, surtout en ce moment, une réappropriation de ces enjeux-là, de la parole politique, etc., surtout sur un sujet comme ça, qui touche en fait à nos vies individuelles, mais aussi à l'intime, et sur lequel, au contraire, il faut vraiment, je pense, que toutes les opinions puissent s'entendre et savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite, et vraiment prendre le temps de réfléchir, mais malgré tout, y aller, parce que je pense qu'à la fin, on tend vers ça, parce que c'est une question de liberté, et ça, c'est, moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Et cette liberté, c'est la liberté de tout le monde. Et c'est aussi une responsabilité personnelle aussi de pouvoir avoir ce choix et de comprendre la dignité comme on l'entend.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Pour moi aussi, l'aspect fondamental, c'est juste d'avoir le choix, en fait. Ceux et celles qui ne souhaitent pas d'euthanasie active, très bien, mais qu'on puisse au moins permettre à celles et ceux qui la souhaitent de pouvoir effectivement y recourir dans les meilleures conditions et pas de manière cachée ou illégale. C'est un peu le même enjeu que l'IVG, en réalité, hein, parce que c'est terriblement dangereux. Tu parlais, Soraya, des 2000 à 4000 personnes qui chaque année décident de mettre fin à leur jour parce qu'elles souffrent trop. C'est déjà beaucoup trop comme chiffre, en fait. Soraya, je te laisse le mot de la fin sur cette thématique.
Le mot de la fin sur cette thématique, c'est qu'effectivement, les citoyens et les citoyennes ont raison, ils vont devoir s'emparer de ce débat-là, mais je pense aussi qu'ils le font, et qu'elles le font parce qu'elles n'ont pas la mémoire courte. Je rappelle qu'un certain François Hollande avait promis à l'époque notamment... et passer une loi en faveur de la fin de vie dans la dignité, ce qui n'a pas été fait. Après, je ne suis pas là pour faire le bilan trans Hollande, mais en tout cas, la manière aussi dont pourrait s'en servir le peuple, c'est en créant... On n'arrivera pas à faire passer ce projet de loi si on ne crée pas un projet global aussi, en prenant en compte les risques les barrières qu'il va falloir mettre. Par exemple, je pense au personnel soignant, parce qu'effectivement, assister quelqu'un dans la fin de vie, c'est quelque chose qui peut être très... traumatisant quand votre métier à vous, c'est de sauver des vies et que voilà, faut aussi le mettre en place dans les parcours universitaires, comment on accompagne à la fin de vie, comment on soigne en fin de vie. Mais en tout cas, il va falloir traiter le projet en profondeur, mais je pense qu'on ne passera pas un nouveau mandat présidentiel sans devoir traiter la question et avec sérieux.
Ouais, bien sûr. Salomé, tu voulais... réagir, et Marion aussi, vas-y.
Oui, pour dire que je suis tout à fait d'accord, en fait, je pense que ce débat doit aussi avoir lieu dans un débat beaucoup plus global sur notre système de soins en France, notamment parce qu'il faut évidemment que ce soit un choix, mais il ne faut pas non plus que ce soit le choix par défaut pour certaines personnes. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement, et vraiment que le système de soins en France doit vraiment être l'objet d'un plus grand investissement pour venir en soutien beaucoup plus fermement au personnel soignant. On a pu le voir pendant la crise du Covid, mais parce qu'en fait aussi en France, donc il y a l'espérance de vie, mais il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé, et là il y a des énormes inégalités, et donc les inégalités sociales et territoriales se retrouvent aussi dans les inégalités médicales, et ça, c'est, je pense que c'est vraiment un grand débat qui doit être lancé à ce niveau-là pour éviter que ce soit un choix par défaut, ce qui serait vraiment du coup le contraire de la liberté de chacun disposer de sa propre mort, du coup.
Ouais, c'est clair. Marion, tu voulais ajouter quelque chose ?
Juste pour rebondir sur ce que Salomé et Soraya disaient, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est une question qui intègre un débat beaucoup plus global, c'est là où on se rejoint, sur la question de la fin de vie tout court en France. Et je pense que c'est un sujet qui a été rarement une priorité, et je pense que la situation avec le Covid l'a montré par rapport aux situations dans les hôpitaux notamment. Et c'est pour ça que je pense que le débat arrive justement, contrairement à ce qu'on dit, à point nommé, parce qu'il fait appel à deux questions, c'est-à-dire la fin de vie par rapport à l'euthanasie, mais aussi la fin de vie par rapport à la santé et du coup aux soins qu'on peut apporter aux personnes en France.
Oui, absolument. Soraya, cette fois-ci, je te laisse vraiment conclure.
Pour le vrai mot de la fin, pour terminer, je pense qu'il faut dépassionner ce débat-là. Il faut réussir à mener ce débat avec sérieux, de manière posée, même si c'est très difficile, parce que ça traite toujours un trait d'humanité chez nous, à quelque chose qu'on a peut-être vécu, qu'on a peur de vivre, qu'on a, enfin, ça touche à la peur de la mort quand même. Enfin, c'est la peur de l'humanité. On va pas se mentir. Il faut dépassionner ce débat-là parce qu'on finit par entendre des choses ignobles et on finit par entendre des élus de la République qui disent des choses comme bah, ces gens n'ont qu'à se suicider avant. Ou, enfin, et encore, je crois que c'est pas la pire que j'ai entendue. On parle quand même d'humain. On parle de ce qui fait humanité entre nous. Et si on veut créer cette société où on fait humanité entre nous, il va falloir peut-être apprendre à traiter les choses moins passionnément et de manière plus réfléchie. En tout cas, je le souhaite à nos élus de la République.
Ouais, et là, je te rejoins. Et pour moi, c'est d'ailleurs un conseil qui est valable pour n'importe quel type de politique publique. En fait, l'émotion n'a pas lieu d'être en fait, dans ces questions-là. Il faut savoir prendre du recul et s'intéresser d'abord à l'intérêt général. Voilà, un bon entendeur, hein, salut. Bon, allez, maintenant, on va passer au retour de notre doudou adoré. C'est ridicule de l'appeler comme ça, mais franchement, ça me fait tellement marrer que je ne peux pas m'en empêcher. Alors, reculer pour mieux sauter. Serait-ce la stratégie qu'entend mettre en œuvre l'ancien Premier ministre pour peut-être, comme le suggèrent certains bruits de couloir, annoncer sa candidature à la présidentielle pour 2022? Car oui, avec la sortie de son livre coécrit avec son ami Gilles Boyer, notre cher Doudou est de partout et signe son grand retour médiatique. Ce retour semble sincèrement agacer certains proches du chef de l'État et Édouard Philippe bouscule à droite, comme au sein de la majorité présidentielle. L'ancien Premier ministre jouit d'une très forte popularité et pourrait peut-être créer la surprise en 2022. Qu'en pensez-vous? Est-ce que d'après vous, Édouard Philippe est en train de préparer le terrain pour annoncer sa candidature pour la présidentielle? Si oui, quelles sont ses chances et quelles pourraient être les conséquences d'une telle candidature pour Emmanuel Macron? Et je vais d'abord donner la parole à Soraya. Soraya, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Bon, peut-être pour débuter sur une petite blague, je pense qu'on est tous en train de vivre et tout un petit syndrome de Stockholm. Une fois qu'on s'est dit ça, ça va mieux. Je ne sais pas s'il faudra la garder au montage, mais
aussi. Si elle est bien.
Mais une fois qu'on s'est dit ça, je pense qu'il est en train, en tout cas, de. C'est drôle, c'est une stratégie très macroniste en fait. Il envoie des petits ballons. Il envoie des petits ballons et il voit comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce qu'elle prend pas? Quand il voit des sondages comme effectivement celui qui montre qu'il serait le seul à gagner contre Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, bah, ça met en confiance. Et donc je pense que effectivement ça l'amène à travailler, en tout cas, et à retravailler un petit retour médiatique. Et puis, de toute façon, on le sait tous, quand un homme ou une femme politique sort un livre, c'est toujours fait dans un timing assez spécifique.
Sauf si ça fait un flop et que tu t'appelles Arnaud Montebourg, mais ah bon.
Ah, mais là, je pense qu'il n'a pas calculé.
Non,
il a
clairement
pas calculé
pas.
Le timing.
Ouais, c'est
peut-être.
Clair. Il va finir chez Pif et Hercule, lui aussi.
Mais du coup, il y a cet aspect-là. Il sait, il le fait. Ça, c'est son aspect macroniste. Mais il ne faut pas oublier qu'Édouard Philippe, c'est aussi un juppéiste. Et les juppéistes, ils ont appris à pas mal se méfier des sondages et ils ont raison. Parce que quand même, Juppé, c'était le champion du monde, du mec qui était adoré et détesté 3 mois après. Lui, les montagnes russes des sondages, il les a fait. Qu'on se souvient des primaires de la droite en 2017 et que Juppé était censé être un des grands favoris. Et finalement, ce n'est pas Juppé qui est ressorti. Donc, je pense qu'il y va. Mais avec une certaine dose d'humilité. Mais d'ailleurs, c'est gênant parce que ça fait son charme, finalement, le juppéisme à Édouard Philippe. Donc, il y va avec une certaine dose d'humilité parce qu'il a une histoire, je pense, militante qui lui rappelle que les sondages, c'est pas tout et que surtout, ils ont quand même un petit jeu à droite. C'est que plus vite tu es haut dans les sondages, plus tu es facile à viser comme une espèce de poule ou comme les faisans qu'a subventionné Valérie Pécresse pour l'association de chasseurs, quoi. Voilà, donc je pense qu'il va essayer de ne pas faire le faisan. C'est assez compliqué pour Édouard Philippe, mais il plaît. Je suis pas sûre. Ça va mettre Emmanuel Macron en difficulté, mais ça va aussi mettre la droite en difficulté. Hein. Les Républicains, un retour d'un juppéiste sur la terre promise un peu, hein, parce que c'est un peu ça l'histoire de Juppé quand même. Ça peut rebattre les cartes à droite, et je pense que c'est aussi un peu là-dessus qui compte. Mais oui, Édouard Philippe ressort finalement de cette séquence Covid avec une image renforcée là où celle du président est affaiblie. Et ça, c'est la vérité.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ce serait quand même assez intéressant de voir jusqu'à quel point il va essayer de saisir cette popularité pour créer éventuellement une opportunité à faire à suivre, effectivement. Marion, toi, tu en penses quoi de ce comeback?
J'ai envie de dire doute, suspense, c'est vraiment l'épisode à ne pas louper en ce moment. Bah, en fait, bah, j'ai vu plein de choses en creusant et je trouve qu'il a une communication qui est quand même bien, hein, cet Édouard Philippe. En tout cas, il a le timing juste. Et du coup, donc j'ai lu que c'était l'homme politique préféré des Français, je ne savais pas, hein, qu'il avait eu l'insigne aussi du grand officier de la Légion d'honneur pour ses 2 ans à Matignon. Enfin, ça fait beaucoup de choses quand même, hein, chapeau. Moi, je pense que c'est à la fois l'ombre et le remède, j'ai l'impression, de ce gouvernement. C'est-à-dire que bon, à un moment donné, il est un peu trop populaire et donc on porte de sortie. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça a été fait sous Pompidou, sous Mitterrand, voilà. Et puis bah, là, il revient comme le remède, en fait. Et donc, le fait du doute crée encore plus d'attentes parce que du coup, bah, il représente cette image de la loyauté, de la fiabilité. Donc, en fait, dans une période comme celle que l'on vit, c'est un peu le rocher au milieu de la tempête, quoi. Et donc, on se raccroche à quelque chose qu'on a tendance à idéaliser, j'ai l'impression, parce que c'est quand même pas très rationnel, tout ça. Bah, par rapport à Emmanuel Macron, tu questionnais sur bah, voilà, quid de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer. C'est que bah, le risque, c'est que, en tout cas pour Emmanuel Macron, évidemment, c'est d'avoir le syndrome de Churchill, hein, tout simplement, qui voilà, il est lié à une période très noire, très sombre avec le Covid. Donc la réélection l'année prochaine, ça, voilà, c'est un petit peu entaché. Donc, quelque part, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu biaisé et le fait qu'il revienne peut en effet rebattre l'ensemble des cartes.
Ouais, c'est clair. Et Salomé, toi, t'es enthousiaste face à comment dire, ce suspense incroyable que nous sommes en train de vivre. Non, mais c'est fabuleux. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui vienne un peu foutre la merde, parce que c'est un peu ça, quoi.
Ouais, non, tout à fait. Enthousiaste, je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça très. Enfin, c'est intéressant à regarder. C'est peut-être même drôle. En tout cas, moi, je sais qu'avec mes amis, on a tous nos pronostics un peu, etc. Parce qu'en fait, mine de rien, Édouard Philippe, il a quand même un peu cette capitale sympathie assez intéressante où, en fait, il fait un peu oublier parce que, quand même, c'était les 3 premières années d'Emmanuel Macron. Et donc, il y a eu des réformes très impopulaires qui sont passées. Ça a fait quand même beaucoup de débats. Donc, il y a eu les
Ouais,
gilets jaunes.
exactement, ouais, il s'est quand même pris la crise des gilets jaunes, c'est pas rien, ouais.
Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, il revient. Enfin, il n'est jamais vraiment parti, mais bon, il revient. Et puis, sans vraiment y toucher, je suis là, je publie mon livre, et puis je suis quand même. Enfin, voilà, il a vraiment cette sympathie. Il en joue un peu aussi, et c'est normal, c'est la communication. Mais voilà, c'est l'image d'un homme politique. Voilà, il se dit fidèle, mais en même temps, il se dit très libre. Donc, voilà, c'est peut-être une nouvelle façon aussi de faire. Je sais pas, il redéfinit un peu l'amour, peut-être aussi. Mais ouais, c'est assez passionnant. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment se présenter en 2022, je ne sais pas, mais est-ce que finalement ce serait pas aussi jouer l'après-législative, enfin jouer les législatives aussi peut-être? Est-ce que finalement, si mettons que la majorité ne réussit pas à avoir une majorité, peut-être que lui pourrait permettre une union un peu LR-LREM, parce que finalement il fait consensus à gauche comme à droite, parce que justement il a ce capital sympathie et cet état de grâce. Effectivement, donc un peu cet état de grâce qu'il va falloir utiliser parce que ça va pas durer éternellement. Maintenant, est-ce que finalement il joue sur quoi il mise, on ne sait pas forcément. Est-ce qu'il va se présenter face à Emmanuel Macron, je ne sais pas. Est-ce qu'il mise sur une défaite de la majorité au potentiel aux législatives et du coup comme une figure consensuelle qui pourrait unir cette majorité avec une partie de la droite? Alors, beaucoup d'hypothèses maintenant. Est-ce qu'il pourrait créer une surprise? Moi, je pense qu'une surprise, il faut vraiment quelqu'un de nouveau, même si cette personne est familière, il faut quand même quelqu'un qui porte des idées qui sont nouvelles. Et en fait, même s'il est élu président, son capital sympathie restera pas. Et derrière, on aura toujours la même personne qui a passé malgré tout des mesures qui ne sont peut-être pas ce dont le pays a besoin. Ça, c'est un avis, mais qui est en tout cas très impopulaire et c'est peut-être pas la meilleure chose pour notre vie démocratique actuellement en tout cas et pour le débat parce qu'on ne fait pas tout sur une personnalité même si nos institutions y tendent.
Ouais, c'est clair. Et c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'Emmanuel Macron de François Hollande. Il est en train de la faire à l'envers à Emmanuel Macron, comme lui-même l'avait fait à l'envers. Enfin, le karma, c'est un truc hein, quand même, les filles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, Soraya, d'après toi, jusqu'à quel point ça peut vraiment foutre le sbeul au sein de la République En Marche?
Si tant est que ça ne le soit pas déjà. Si tant est que ça ne le soit pas déjà. Je pense que ça peut le mettre un peu. Mais en vrai, à la fin, quoi qu'il advienne, quelle que soit la personne qui porte la liste de La République En Marche, il faudra porter le bilan. Et c'est à ce moment-là que ça va se corser. C'est au moment où il faut porter le bilan du quinquennat qui a été mené. Donc là, pour l'instant, à un moment, à La République En Marche, c'est même pas sûr que tout le monde veuille y aller. Parce que quand on y va pour gagner, il n'y a pas de souci, tout le monde veut y aller. Quand on y va pour perdre, c'est autre chose. Donc je pense que ça peut... Je pense que pour eux, c'est peut-être plus vecteur d'un nouvel espoir, en se disant peut-être qu'avec la personnalité d'Édouard Philippe, comme il a le vent en poupe en ce moment, on peut faire quelque chose, ce qui n'est quand même clairement pas le cas d'Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas sûre que le résultat final ne soit pas le même. Donc, cette question-là risque de les occuper pas mal. Mais je pense que ça ne va pas... Ils cherchent un sauveur et je pense malheureusement que pour eux, il n'y en aura pas.
Mais est-ce que tu crois qu'il peut vraiment, moi je n'imagine pas une seule seconde, qu'il puisse se présenter avec l'étiquette En Marche en fait?
Bah alors oui, et en même temps je ne pense pas qu'il pourra retourner chez les Républicains et qu'il sera accueilli les bras grands ouverts. Donc voilà, après ils ont aussi la possibilité, parce que c'est quand même la première fois mine de rien qu'ils vont présenter un candidat ou une candidate une fois le parti créé, hein, puisque la dernière fois, il y avait le candidat, puis après, ils ont eu le parti. Donc, ça veut dire peut-être des primaires. Ça dépend aussi de ce que voudra faire Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, en 2017, ce n'était pas exactement le même schéma politique quand on pensait que François Hollande repartirait et quand François Hollande a dit qu'il ne repartirait pas. Donc, mine de rien, tout le monde va être suspendu aussi à la décision d'un Emmanuel Macron de repartir en campagne électorale ou de ne pas repartir en campagne électorale. Après, ça dépendra aussi du laps de temps qui restera entre le moment où Emmanuel Macron a dit « je pars ou je pars pas » pour dégager un autre candidat. Donc, en fait, ils ne sont, sont pas sortis du sable. Voilà, si je peux me permettre, ils ne sont pas sortis du sable. Il ne reste qu'un an et un mois avant l'élection présidentielle. Et je pense sincèrement que, vu le climat général en France, alors il y a une sympathie pour Édouard Philippe, mais malheureusement, la sympathie n'a jamais fait gagner une élection. Il y a un capital sympathie, mais il faut qu'il y ait quand même plein de choses derrière, et notamment une capacité à rassembler. Je veux dire, à gauche comme à droite, le territoire politique est complètement messed up, quoi. Enfin, c'est celui qui sera aussi et celle qui sera en capacité de rassembler à gauche comme à droite, je pense qu'il partira avec les plus forts atouts.
Ouais, c'est clair. Marion, toi, tu t'imagines la mise en place d'une primaire au sein de La République En Marche? Comment c'est? Moi, j'imagine pas une seule seconde que ça puisse arriver, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, de prime abord, évidemment, je partage ton avis. J'ai du mal à comprendre. En fait, c'est le fait, comme disait Soraya, qu'il y ait d'abord eu une personne, puis un parti, qui fait que le parti en soi, c'est même pas le terme parti qu'il faudrait lui donner. C'est le bébé d'Emmanuel Macron. Donc sans Emmanuel Macron, est-ce que ça a un sens? Je ne sais pas. Donc est-ce que ça va être de repartir sur de nouvelles pistes? Mais là, alors le travail, et ça ne l'empêchera pas en effet d'avoir une sorte de bilan qui traîne comme un boulet derrière, parce qu'il aura fait partie du truc quand même. Des primaires, ça va avec un parti, et en effet, La République En Marche, moi, je n'ai pas du tout cette approche de parti avec, on va dire, cette ligne directrice politique. Et du coup, je voulais juste, c'est vrai que par rapport à tout ce que vous avez dit, ce qui ressort de ça aussi, c'est vraiment ce côté syndrome un peu de télé-réalité qui est de toute façon en train de s'intensifier avec la vie politique, mais c'est fascinant. En plus, on s'ennuie alors de voir ça, c'est la saga de l'été. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui ressort, et encore une fois, on en revient à la démocratie, et à cette démocratie qu'il va falloir revisiter complètement, parce que là, c'est aujourd'hui, on en est encore à reposer des enjeux sur une personnalité, plus qu'un ensemble d'idées communes à un parti. Et là, clairement, c'est tout ce qui ressort de ce sujet. Et c'est un peu sidérant d'en être encore là. Donc, même si c'est fascinant, parce qu'en effet, ça tient le suspense, quoi. Mais il nous en faut peu en ce moment, donc c'est pas révélateur, ça.
Ça, c'est pas faux, en effet. Mais j'insiste sur cette idée de primaire quand même au sein de La République En Marche, parce que j'avais très envie de parler de ça. Finalement, c'était un prétexte, Édouard Philippe. Excuse-nous, hein. Excuse-nous, Édouard. Salomé, toi, est-ce que tu imagines des primaires au sein de La République En Marche? Admettons, s'ils commencent à dire « Ok, on va faire des primaires parce que grand retour d'Édouard Philippe, on va calmer le jeu en demandant aux membres de La République En Marche de trancher », est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient se dire « Bah tiens, moi aussi, j'y vais, quoi ». Enfin, on peut imaginer ça, non?
Déjà, moi, j'ai du mal à imaginer juste le fait d'une primaire justement à La République En Marche, parce qu'effectivement, c'est le parti est arrivé après, c'est le bébé d'Emmanuel Macron, que oui, c'est déjà, il faudrait avoir, j'ai envie de dire, de l'audace pour essayer de se d'essayer de, ouais, de faire une compétition contre justement donc un président potentiellement sortant, s'il se représente, ce serait quand même du jamais vu. Enfin, en tout cas, pour La République En Marche, imaginez Emmanuel Macron challenger à ce point-là. Sachant qu'il a un peu bâti autour, enfin c'est un parti qui tourne quand même autour de sa personne. Moi j'ai l'impression, en tout cas, moi je le ressens comme tel. Et donc du coup, rien qu'imaginer, ouais, déjà il faudrait que je puisse imaginer une primaire dans le parti présidentiel avant de pouvoir imaginer les candidats. Et ça c'est pas, en tout cas c'est pas gagné pour l'instant.
Non, c'est pas gagné, mais moi je vois tellement un Gabriel Attal. Genre, mais tellement, quoi. Il nous ferait toute sa campagne avec Emma Cupcake sur Instagram. Ce serait mais du pain béni, les filles. Mais imaginez le truc, quoi. Là, on pourrait se marrer. Là, ouais, là ça deviendra vraiment télé-réalité, Marion. C'est exactement ça. Soraya, toi, tu... Bon, tout ce bordel, là, t'en penses quoi? Et puis, est-ce que tu penses vraiment que Philippe peut avoir effectivement une chance de revenir et de devenir notre prochain président de la République? Parce que c'est la vraie question de... derrière tout ça quand même. Est-ce qu'il en a les capacités et les moyens aussi, parce qu'une campagne, ça implique des moyens.
Honnêtement, j'espère pas quand même. Non, mais je veux dire, on est là bien, on rigole et tout. Non, j'espère qu'on aura un président ou une présidente qui incarnera la transformation sociale et écologique dont on a besoin. Et je ne pense pas que ce soit Édouard Philippe. Maintenant qu'ils reviennent, pourquoi pas? Mais une fois de plus, Marion et Salomé avaient totalement raison là-dessus, il faut un outil. Il faut un parti, il faut des moyens. Un parti, ça ne se construit pas comme ça. En tout cas, un parti en capacité de prendre le pouvoir normalement, si ce n'est pas en marche, ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, refaire le coup de La République En Marche, deux élections d'affilée, je pense que ce serait un peu trop, je pense, pour les Français. Là, je pense qu'on commence un peu à saturer de ce genre. Enfin, c'est bien le rebondissement politique, effectivement. Hein, c'est un peu notre série de l'année alors qu'on est confiné. Mais je pense que des fois, on a besoin d'un peu de stabilité, de parler un peu des idées. Édouard Philippe, c'est un bon packaging. Je pense qu'il a autant de chances de revenir, dans le jeu politique de la droite. Il a autant de chances là que ce qu'il avait de chance, ce que Juppé avait de chance en 2017, en fait. Oui, à droite, il peut réussir. Ça va être encore plus compliqué parce que Juppé n'a jamais trahi son parti. Juppé, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours quand même été très fidèle à droite. Édouard Philippe a quand même été premier ministre d'un gouvernement La République En Marche. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Et donc, effectivement, la politique, ça reste de la politique et pas de la télé-réalité. Et donc, à la fin, il faut un parti, un projet, un mandat, des gens à faire élire, des cadres politiques. Et on en est loin quand on n'a que soi, son copain et son bouquin.
Ouais, c'est clair. Bon, après, il a été finalement le premier ministre d'un gouvernement de droite. On a mis un peu de temps, enfin, les gens ont mis un peu de temps avant de le comprendre. Moi, j'ai compris tout de suite. Hein. Je veux pas me balancer des fleurs, mais j'ai pas du tout cru une seule seconde à leur histoire. À partir du moment où tu mets un premier ministre de droite et un ministre de l'économie de droite, bon, bah voilà, ça, c'est une politique de droite. Hein. C'est clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était super intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je pensais pas qu'on allait se marrer autant autour d'Edouard Philippe, mais c'est cool. C'était vachement sympa. On va parler de vos actus, ce dont vous vouliez parler aujourd'hui sur Popol. Et on va commencer avec toi, Salomé. Tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît?
Moi, j'ai choisi du coup de parler de Déclic, justement, l'association dans laquelle je travaille depuis octobre déjà. Donc, j'ai un lien un peu émotionnel, forcément, parce que c'est une nouvelle association qui est née en mars dernier, lors du premier confinement, donc en mars 2020. C'est un laboratoire d'idées, un think and do tank, qui réunit donc des étudiants et des jeunes actifs pour porter une vraie dynamique d'innovation, pour porter donc des idées de propositions de politique publique sur la transition socio-environnementale. Et c'est vraiment faisable par tout le monde, donc chacun dans sa branche, par exemple, parce qu'on a des ingénieurs, on a des profils beaucoup plus littéraires ou beaucoup plus juridiques. En juin dernier, du coup, on a pu publier notre premier rapport thématique et on essaye donc de proposer des idées qui sont co-construites avec des acteurs et des actrices de terrain, parce que ces propositions, elles ne sortent pas de nulle part. Elles font l'objet d'une véritable incubation, une véritable recherche et échange. Et on peut ensuite les proposer à divers acteurs institutionnels, donc par exemple à des agglomérations, mais aussi à des acteurs plus parlementaires. Donc là, actuellement, avec les députés, lors du projet de loi climat, avec qui on est en partenariat avec Green Lobby, qui vient nous aider à cette formation à l'écriture d'amendements qui est finalement technique, mais accessible quand même, finalement. Et puis, on s'inscrit dans ce grand mouvement de toute la jeunesse mobilisée autour de ces enjeux actuellement pour hausser l'ambition de la loi climat. Et puis, par exemple, lors de ces deux dernières semaines, on était devant l'Assemblée nationale avec d'autres organisations jeunes qui font un boulot de malade, il faut quand même le souligner, pour justement faire vivre ce débat démocratique, déconfiner un peu la démocratie. Et puis, dans le respect des barrières, du coup, on pouvait faire des squats ou un petit footing de remise en forme et parler de transition socio-environnementale, donc c'est plutôt pas mal. J'en profite aussi pour dire que voilà, petite dédicace, je sais pas comment dire, à toutes ces filles à l'association Déclic parce qu'elles font un boulot de malade quand même. Et évidemment, il y a des garçons, mais il y a aussi des filles qui font un boulot formidable, donc je pourrais pas citer tout le monde. Et donc voilà, et le dernier point, c'est que nous, on veut vraiment que ce soit un débat pour tout le monde. Et donc, sur notre site internet, on a mis en place une plateforme d'innovation citoyenne où chacun peut soumettre ses idées pour la transition socio-environnementale, peut soumettre ses idées, mais aussi nous rejoindre s'ils veulent continuer à les développer en notre sein, parce que voilà, plus on est fou et plus on rit finalement.
Très cool, merci Salomé, c'est super intéressant. Tu veux donner le lien de la plateforme ?
Déclic-solution.org et ensuite il faut aller dans la rubrique propose ton idée. Voilà.
Super cool, donc allez toutes et tous proposer vos idées. Marion, de quoi voulais-tu nous parler, toi ?
Eh bien, écoute, moi, rien à voir. En fait, je me suis dit que je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que je vais parler, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de se dire en ce moment. Eh bien, en fait, je vais juste parler d'un livre qui est sorti et que je trouve particulièrement bon niveau timing, ça nous fait du bien. C'est celui de Jean-Claude Kaufmann. Donc, c'est Fatigant la liberté. J'adore ce titre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une approche Covid depuis un an qui est quasi uniquement par des chiffres, on manque cruellement de recul et on vit les choses de façon très cloisonnée, hein, chacun chez soi. Donc, en fait, l'idée du livre, c'est d'aborder la question des libertés individuelles. Je trouve que ça fait écho aussi au débat qu'on a eu aujourd'hui, hein, on est en plein dedans, qui sont plus que jamais nécessaires. Et en fait, le grand thème, c'est juste qu'on est dans un glissement civilisationnel. On a des vies qui sont un peu plus tranquilles, au risque de nos libertés, en fait, par rapport à cette situation de crise sanitaire. Et en fait, Jean-Claude Kaufmann parle carrément de société un petit peu molle, entre guillemets, mais il utilise ce terme-là. Moi, j'ai envie de vous dire, ça pourrait symboliquement être décrit par moins de libido, dodo et pain au levain, parce que tout le monde s'est mis à faire de la cuisine. Et donc, une société un peu moins active. Et finalement, on voit que c'est à la fois un révélateur personnel, cette situation, mais aussi on ressort un désir de lenteur. Qu'on n'a pas pris ou voilà, on n'avait pas conscience dans nos quotidiens respectifs un peu effrénés. Et donc, en fait, ce qui se passe, alors pourquoi c'est fatigant la liberté, comme il dit, eh bien, c'est que l'élargissement du pouvoir de l'individu sur ses choix, ça crée une surcharge mentale. Et je pense qu'on y a tous goûté, plus ou moins, le fait d'avoir le choix de ses décisions, de sa vie, de voilà ce que je veux faire. En fait, on s'en remet à soi et c'est tellement rare qu'aujourd'hui, ça provoque cette surcharge et donc cette fatigue, comme il l'appelle. En gros, l'autonomie, c'est épuisant. Et face à ça, on voit aussi une soumission à l'autorité assez dingue. Et on se dit, surtout en France, par rapport à notre historique, tout ça, bon, c'est un peu étrange. On a vu que ça allait jusqu'à la délation. Voilà, on en respecte les règles. Et donc, en fait, la grosse question, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à abandonner nos libertés pour une vie plus tranquille. Et je trouve ça hyper intéressant comme sujet, peut-être abordé dans un autre podcast. Hein. Et en fait, ça met juste deux grandes contradictions du moment qu'on subit tous et toutes. C'est la discipline vs la liberté, tout simplement. Et donc, forcément, ça appelle aussi à de nouveaux enjeux politiques, parce que je pense que c'est une situation qui ferait rêver plus d'un totalitaire qui choisirait d'établir son empire dans ces instants-là. Hein. Donc, voilà, c'était Jean-Claude Kaufmann, c'est Fatigant la liberté, je recommande pour ceux qui ont envie de prendre du recul.
C'est trop cool, merci. J'adore quand ces cartes blanches se transforment en revues littéraires et fiches de lecture. Je trouve ça absolument génial. Comme ça, moi, je n'ai même pas besoin de lire les bouquins derrière. Merci beaucoup, Marion. C'était super intéressant. D'ailleurs, ça me rappelle cette phrase de Gide qui est tout choix est angoissant, je crois. C'est un peu ça l'idée, hein, finalement. Ça résume un peu le bouquin. Merci beaucoup. Soraya, tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît?
Est-ce que j'ai le droit de parler un peu de la campagne électorale, d'appeler à voter en juin?
Ah bah évidemment, bien sûr.
Ah ok.
Ah, ouais, ouais, plus que jamais.
Top.
Plus que jamais.
Ok, of course.
C'est bon. Et puis appeler à voter pour toi, évidemment.
Et ben, du coup, moi, je vous fais une petite carte blanche assez courte sur les élections régionales de juin 2021, puisque c'est mon actualité et je vous avouerai ce qui occupe pas mal mes journées en ce moment. Mais malheureusement, le contexte ne se prête pas trop à ce que les Françaises et les Français se préoccupent des élections régionales. Moi, je suis en Île-de-France et honnêtement, en Île-de-France, mais dans toutes les autres régions, c'est une région avec des moyens, c'est une région qui nous permet vraiment d'être pilote pour expérimenter une nouvelle manière de construire des territoires écologiques et solidaires. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée avec Julien Bayou sur la liste L'écologie, évidemment. C'est que je voulais, et notamment, ce n'est pas du tout la direction qu'a fait prendre Valérie Pécresse à cette région Île-de-France, je veux une région qui soit, je veux une région qui soit écologique, solidaire, qui crée de l'emploi, qui s'occupe de sa jeunesse, qui soit écoféministe. Je veux plus une région, je faisais la blague en rigolant tout à l'heure, mais c'est un vrai fait. Pécresse a subventionné des faisans qui se sont fait tirer dessus derrière à une asso de chasseurs. Asso de chasseurs, c'est dur à dire. Hein. Leur quotidien ne doit pas être si facile que ça.
Vivement que ça n'existe plus.
C'est ça, vivement que ça n'existe plus. C'est vraiment très compliqué à dire. Ça a été 200 000 euros de subventions qui ont été octroyées à des associations qui étaient anti-IVG. Alors pourtant, je suis une fervente défenseuse du secteur associatif, mais quand on fait ça et qu'à côté, on ferme l'agence culturelle Arcadie, donc qui était une agence territoriale qui permettait de mettre en place et de soutenir les politiques culturelles de la région Île-de-France, et on sait aujourd'hui dans quel état est le secteur culturel nationalement, on pourrait croire qu'on est à deux doigts de la blague. Donc moi, je veux une région qui sérieusement réfléchisse à sa transition écologique et solidaire. Et moi, mon dada là-dedans, c'est le secteur économie sociale et solidaire, le secteur associatif qui est en forte, forte peine en ce moment. Pour autant, c'est quand même une réponse en termes de création de solidarité et de vie des territoires, c'est une réponse en termes d'emploi, puisque souvent les associations, elles créent de l'emploi et elles créent de l'emploi qui a du sens. C'est aussi, je pense, l'économie sociale et solidaire, l'économie d'hier, parce qu'elle date d'il y a deux siècles, mais c'est l'économie de demain, parce qu'avec cette crise Covid, je pense que beaucoup de gens se sont remis en question sur leur manière de consommer, de produire, de participer, mais aussi tout ce qui est démocratie économique. Et l'économie sociale et solidaire, c'est la démocratie économique, c'est comment on se réoctroie une partie de son économie qui aujourd'hui nous a totalement échappé par la financiarisation. Et c'est quelque chose sur laquelle nous, on veut beaucoup s'appuyer quand on sera à la tête de la région et qu'on gagnera les élections le 12 et le 26 juin 2021. C'est sur une économie qui nous permet d'être utile aux citoyens, qui soit utile aux citoyens, qui soit utile socialement, qui soit utile à son environnement. Avec une grosse pensée en ce moment pour le secteur associatif qui a perdu ses emplois aidés, qui a perdu la plupart de ses subventions, qui est mise à mal, mais qu'on n'hésite pas à appeler pendant les périodes de Covid pour aller faire vivre la solidarité, faire des distributions alimentaires et tutti quanti. Donc, vive le secteur associatif, vive le SS et vivement qu'on s'appuie sur eux pour qu'ils deviennent la norme et pas l'exception.
Merci Soraya, c'est une parfaite conclusion pour cet épisode. On rappelle effectivement qu'il y a les élections régionales et départementales qui se tiendront au mois de juin. Pour le moment, ça n'a pas été reporté et on peut que vous conseiller d'aller voter. Je vous remercie beaucoup pour cet épisode, c'était vraiment cool, on s'est bien marré.